être, se tendre les mains du Seigneur. Alors Seigneur, nous te rendons grâce pour cette matinée que tu nous donnes et pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Aujourd'hui Seigneur, avant de te présenter cet instant et de te demander ta grâce sur nous, nous voulons élever Seigneur ces deux requêtes pressantes. Tu vois Seigneur ce jeune homme qui se retrouve en cours aux États-Unis, prêt à faire face Seigneur à ses actions et aux gestes posés, mais aussi, Seigneur, implorant ta grâce dans son dossier. Alors nous prions, Seigneur, que cette transformation qui s'est opérée dans sa vie soit marquante. Tu vois, Seigneur, les réunions qu'il a commencées en milieu carcéral, les personnes qu'il a approchées, à qui il a témoigné de toi, Seigneur, dans cette prison. Nous te demandons donc de soutenir Roberto, d'aplanir son sentier, Seigneur, et d'ouvrir les portes qui doivent s'ouvrir. Tu sais quelle est la meilleure des options pour lui, tu vois ses requêtes, mais au-delà de cela, nous savons que tout ce que tu fais est parfait. Alors, révèle-toi en lui encore plus, utilise-le pour ta gloire, et incline le cœur des uns et des autres qui sont impliqués dans ce dossier et dans ce procès en faveur de ton Fils, oh Dieu. Merci aussi, Seigneur, de soutenir la famille de la sœur Nancy, qui est éprouvée actuellement, Seigneur, par le décès d'une sœur suite à la COVID-19. Nous te demandons, Seigneur, que ta grâce soit accordée à toute la famille, que tu leur apportes, Seigneur, toute la consolation nécessaire et le soutien, Seigneur, dont ils ont besoin. Tu vois aussi, Seigneur, les deux autres membres de la famille qui sont eux aussi affectés par la maladie. Nous te demandons, étends ta main, Seigneur, et apaise. Étends ta main, Seigneur, et assèche toute source de maladie. Et Seigneur, veuille retirer, Seigneur, ce virus de leur corps, oh Dieu, et de les soutenir, Seigneur, eux et l'ensemble, Seigneur, de leurs proches. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu entends et que tu réponds aux prières de tes enfants. Alors ce matin, Seigneur, nous nous approchons humblement de toi, en requérant, Seigneur, ta grâce, en requérant, Seigneur, ton inspiration et ton onction pour le message qui va être apporté. On te demande, Seigneur, d'ouvrir notre entendement à ta parole, d'ouvrir notre entendement à ta pensée, et que tu puisses, Seigneur, tous nous bénir, selon la sagesse que tu accordes aux uns et aux autres, selon le cheminement qui a été propre aux uns et aux autres, que tu puisses, Seigneur, encore une fois nous parler et nous garder. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, salutations à tous ceux qui se sont joints à nous. On prendra le temps tout à l'heure de voir s'il y a d'autres noms qu'on peut mentionner. Comme vous savez, je me connecte toujours un peu plus tôt le matin ou avant nos interventions pour vous donner l'occasion de communier, de vous saluer les uns les autres. Et je pense que ça fait partie aussi de ce temps ou de la richesse de ce temps des bénédictions matinales. Simplement avoir le temps, l'occasion de vous dire bonjour, de vous saluer, d'appeler la bénédiction de Dieu sur chacun d'entre vous. Donc on maintient ça comme ça 10 minutes avant notre heure officielle, on débute tout simplement pour vous saluer. Donc ce matin on continue notre étude sur l'amour, sur la voie par excellence dont Paul nous parlait à travers les chapitres 12, 13 et 14 de 1 Corinthiens, mais essentiellement le chapitre 13. Dimanche, on a eu l'occasion de parler, de faire une introduction importante en abordant certains faits de société que nous rencontrons actuellement. Et depuis lundi, donc, on étudie les caractéristiques de l'amour, de la charité, selon la version Louis II du mot. Et on a donc étudié lundi et mardi les 5 premières caractéristiques qui nous sont mentionnées au verset 4. Et aujourd'hui, on va voir 4 autres caractéristiques qui nous sont mentionnées au verset 5 de 1 Corinthiens chapitre 13. Mais je vais relire quand même pour vous du verset 4 au verset 8, au début du verset 8, simplement pour que cette parole puisse nous imprégner. Et après ça, on va aller directement dans l'explication des termes de ce matin. Donc, verset 4 dans 1 Corinthiens chapitre 13, on nous dit « La charité ou l'amour est patiente, elle est pleine de bonté, La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Donc je répète le verset 5, non je continue un peu, simplement pour vous donner l'aperçu général. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et le début du verset 8, la charité ne périt jamais. Donc voici le verset 5 qu'on répète une ou deux fois. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Je répète, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Alors le premier terme à étudier ce matin, c'est le terme hachémonéo. Je vous épelle le terme grec pour malhonnête. Donc c'est hachémonéo, A-S-C-H-E-M-O-N-E-O. Je le répète, A-S-C-H-E-M-O-N-E-O. Je fais ça parce que je sais que certains d'entre vous prenez des notes. Donc ce terme-là est utilisé à deux reprises dans le Nouveau Testament. On parle de malhonnête, on parle de choses déshonorantes, on parle de choses qui sont inconvenantes. Et dans la version en français courant et dans la version du semeur, on dit effectivement l'amour ne fait rien d'inconvenant ou l'amour ne fait rien de honteux. Les trois points qu'on pourrait donner ici sur ce terme-là, et on va y aller avec une approche qui est différente. Au lieu d'expliquer ce qu'est être malhonnête, on va expliquer ce qu'est l'amour qui n'est pas malhonnête. Alors, l'amour qui n'est pas malhonnête, c'est un amour qui ne se sert pas de l'autre, ou qui ne sert plutôt, un amour qui ne sert pas d'autre propos que le bien de son prochain. L'objectif de l'amour qui n'est pas malhonnête n'a comme seul et unique objectif que le bien du prochain et de l'autre. Et là, ça va tant pour dans la relation amoureuse, dans la relation de couple, que dans l'amour que nous manifestons et que nous sommes appelés à manifester envers nos frères en la foi, mais aussi envers notre prochain, et en l'occurrence envers notre prochain qui est en même temps possiblement notre ennemi. Donc la manifestation de l'amour selon le plan de Dieu et que nous ne devons pas avoir dans cette manifestation d'amour un autre propos, un propos détourné, un objectif caché, que celui de veiller au bien de notre prochain. L'amour qui n'est pas malhonnête, l'amour qui ne fait rien d'inconvenant, c'est un amour qui n'utilise pas de subterfuge caché pour arriver à ses fins. Un amour qui ne manipule pas. Parfois, malheureusement, on se rend compte que plusieurs personnes peuvent développer des sentiments, et ça arrive souvent dans la question des relations amoureuses, développent des sentiments envers quelqu'un et utilisent des subterfuges malhonnêtes pour attirer l'attention, pour mettre le grappin sur quelqu'un. Donc l'amour n'est pas supposé utiliser de voix malhonnête. Et quand je parle de voix malhonnête ici, un exemple que je vous ai déjà régulièrement donné à travers des prédications, notamment auprès des jeunes gens qui s'amourachent de quelqu'un, je leur ai dit, regardez, il est tout à fait inconvenant d'utiliser la prière ou le prétexte de prière comme un moyen de s'approcher de quelqu'un. Et là, je parle de l'exemple très classique qui se fait de génération en génération, malheureusement, où tu as le garçon ou parfois la fille qui dit à l'être aimé ou à l'être vers lequel on développe des sentiments, on lui dit « J'ai prié pour toi, je sais pas pourquoi, mais Dieu m'a mis à cœur de prier pour toi. » Et ça, c'est juste un moyen de lancer un hameçon. premièrement, un, si Dieu t'a vraiment mis à cœur de prier pour la personne, ben j'espère que tu as vraiment prié pour la personne. Et deuxièmement, j'espère que tu n'es pas tout simplement en train de mentir et d'inventer une histoire ou une sornette comme quoi tu as effectivement prié pour la personne. Tu as peut-être rêvassé pour la personne, mais encore faut-il que tu aies prié pour elle. Et malheureusement, on voit très régulièrement draguer. Donc, il y a des personnes qui vont draguer avec l'histoire de la prière. Donc, j'ai prié pour toi, ma sœur, j'ai reçu de la part du Seigneur de prier pour toi, et c'est juste des balivernes pour s'approcher de la personne. Cela est tout à fait malhonnête et inconvenant et ne devrait pas se faire. L'amour qui ne fait rien de malhonnête, c'est aussi un amour qui refuse de contourner les règles de la foi chrétienne. Un amour qui va se manifester en respectant les règles de la foi chrétienne. Il y a des balises que Dieu met dans notre comportement, dans notre agissement, dans nos façons de faire, et l'amour qui respecte le plan de Dieu est aussi un amour qui respecte les préceptes et les règles qui sont établies par la Bible et par la parole de Dieu. Le deuxième terme qu'on utilise aujourd'hui ou qu'on étudie aujourd'hui, c'est l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Chercher, c'est le terme zeteo, Z-E-T-E-O, Z-E-T-E-O, qu'on retrouve 119 fois dans le Nouveau Testament. Et le terme l'intérêt propre ou l'intérêt personnel, c'est le terme how to, H-E-A-U-T-O-U, H-E-A-U-T-O-U. Et cette pensée de l'intérêt personnel est très fréquente dans le Nouveau Testament, puisque ce terme va être utilisé 339 fois dans le Nouveau Testament. L'amour qui ne cherche pas son intérêt, c'est un amour qui n'exige pas quelque chose pour lui-même, qui n'aspire pas à un objectif pour lui-même, qui ne languit pas envers lui-même. Et malheureusement, on se rend compte qu'il y a des personnes qui vivent avec une pensée, avec une façon de faire, avec une façon de composer avec la vie, où tout est axé vers sa propre personne. Donc, l'amour qui ne cherche pas son intérêt, c'est un amour qui place le bien du prochain avant ses aspirations personnelles. On a toujours cet exemple de l'amour parfait que Jésus a témoigné. Si Jésus avait cherché son bien-être, son bien personnel avant le nôtre, il ne serait pas mort à la croix. Voilà pourquoi je m'élève régulièrement contre la pensée qui est avant que tu ne puisses aimer les autres, tu dois t'aimer toi-même. Avant de prendre soin des autres, tu dois prendre soin de toi-même. J'ai eu l'occasion de vous le répéter à maintes reprises et je ne me lasserai pas de vous le dire, cette doctrine-là n'est pas une doctrine biblique. La doctrine biblique, c'est tu aimes Dieu, puis tu aimes ton prochain. Et après cela, ben, si tu as encore l'énergie puis le temps, tu t'aimeras toi-même. Mais les deux emphases particulières de l'amour selon le plan de Dieu, c'est un amour véritable, premièrement envers Dieu, puis envers notre prochain. Donc, on veille au bien-être du prochain avant même de penser à notre propre bien-être et à nos propres aspirations personnelles. L'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, c'est un amour dont la préoccupation première et principale est le prochain. Fait que c'est non seulement une question d'action où on place le bien du voisin et du prochain en premier, mais c'est aussi une mentalité, c'est aussi un état d'être, c'est aussi une façon de fonctionner intellectuellement, psychologiquement, dans notre raisonnement et dans notre logique. Le prochain passe avant nous. C'est quelque chose qui se manifeste même avant les actions par notre façon d'être. L'amour chrétien, c'est un amour qui est altruiste, un amour qui veille qui se préoccupe, qui s'intéresse de l'autre avant de s'intéresser à sa propre personne. L'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, finalement, est un amour qui axe, ou quelqu'un qui axe sa vie vers son prochain et non pas vers sa satisfaction personnelle. Donc, quelqu'un qui tire plaisir, quelqu'un qui tire un sentiment d'accomplissement en ayant pris soin des autres. Un exemple à donner, peut-être la pensée des œuvres caritatives, des œuvres de bienfaisance auxquelles l'Église est aussi appelée à participer. L'exemple le plus flagrant dans l'Église serait la tablée, où on dit la tablée ne rapportera peut-être rien à l'Église. Peut-être que la tablée n'amènera ni des âmes, ni des nouveaux convertis, ni des membres à la congrégation, mais la Bible nous dit que nous devons prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger et de l'indigent. Et l'objectif de la tablée du quartier, si vous voyez, vous vous rappelez ce programme où nous servons un repas communautaire par mois à la fin du mois, le dernier week-end, là où les coffres et les comptes en banque sont au plus bas pour bon nombre de nos concitoyens. On leur offre un cadre dans lequel ils viennent manger un repas chaud, préparé avec amour et servi avec amour. La tablée, en presque 15 ou 16 ou 17 ans de fonctionnement, on ne peut pas dire qu'elle a rapporté des fruits tangibles dans l'Église, à part qu'on a eu du plaisir et on a été bénis nous-mêmes en servant notre prochain. Donc, la tablée, ce genre de programme auquel l'Église est conviée pour prendre soin et manifester de l'altruisme envers les autres. L'amour ne cherche point son propre intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. Le terme ici, c'est le terme paroxyno. Paroxyno. Donc, P-A-R-O-X-Y-N-O. P-A-R-O-X-Y-N-O, qu'on retrouve deux fois dans le Nouveau Testament. Ici, le paroxyno, on parle de quelqu'un qui s'irrite, quelqu'un qui devient coupant. C'est comme une lame qu'on affûte. Et on va expliquer cette pensée-là dans quelques instants. Quelqu'un qui s'élève en colère, quelqu'un qui s'exaspère, quelqu'un qui brûle de rancœur. La pensée ici, c'est cette pensée où plus je suis confronté à des choses et à des gens qui m'irritent, et plus je deviens coupant et tranchant. Plus je suis placé dans une situation de pression, plus je m'irrite et plus je deviens, encore une fois, tranchant envers mon prochain, envers mes proches, envers les personnes envers qui je suis supposé manifester amour. Donc, l'amour qui ne s'irrite pas, l'amour qui n'est pas paroxyno, c'est un amour qui sait contenir sa frustration vis-à-vis son prochain, voire son oppresseur. C'est facile d'avoir de la tempérance avec des gens qui nous laissent plus ou moins insignifiants. C'est facile d'avoir de l'affection et de la tempérance envers des gens que nous aimons déjà profondément à la base. Il est plus difficile de manifester notre amour et par conséquent de la tempérance envers un ennemi, envers un oppresseur, envers quelqu'un qui nous est adversaire. Mais ici, l'amour de Dieu, l'amour qui est supposé être manifesté par un enfant de Dieu, est un amour aussi qui apprend à contenir sa frustration vers ou vis-à-vis un oppresseur. L'amour qui ne s'irrite pas, c'est quelqu'un qui privilégie le bien-être de l'autre plutôt qu'un défoulement personnel. On le sait régulièrement, se mettre, s'emporter est plus un défoulement et plus une soupape par laquelle on évacue une pression plutôt qu'un moyen de vengeance en soi. Donc, à la base, on apprend à contenir sa frustration et de surcroît, on arrive à placer le bien-être du prochain, le bien-être de l'autre, plutôt que la satisfaction que nous pourrions avoir tout simplement à manifester, à laisser sortir notre frustration. Un chrétien devrait être capable d'être modéré dans ses paroles, d'être modéré dans ses actions, d'être modéré dans ses manifestations de frustration, et être capable d'intellectualiser la chose, être capable de rendre la chose logique où on se dit, il est plus important de prendre soin de celui qui est devant moi que de lui exprimer ma frustration. L'amour qui ne s'irrite pas, c'est l'amour qui veille à maîtriser ses mots, ses gestes, mais aussi ses réactions. Et c'est quelque chose qui que souvent on donne l'image, ou pour laquelle on donne l'image, comme quoi c'est impossible. J'ai réagi, j'ai pas été capable de me contrôler. Si on n'est pas capable de se contrôler, on est en danger. Il se pourrait qu'on pique des crises, il se pourrait qu'on pique des colères, il se pourrait qu'on pose certains actes qu'on regretterait par la suite, tout simplement sous le prétexte qu'on n'a pas été capable de se contrôler. Même légalement parlant, lorsqu'on y va sur un plan juridique, ça ne tient pas devant la loi. Dire « je me suis emporté puis j'ai frappé la personne », ça ne tient pas. On va t'accuser d'un méfait, on va t'accuser de coups et blessures, on va t'accuser de quelque chose parce que tu n'as pas été capable de te maîtriser. Un enfant de Dieu devrait être capable de se maîtriser. Un enfant de Dieu devrait apprendre à se maîtriser. Un enfant de Dieu devrait maîtriser son corps, un peu comme Paul disait, « Je traite durement mon corps pour ne pas être jugé coupable après avoir moi-même prêché aux autres. » Donc, Paul faisait un exercice avec lequel il tenait en bride son corps. Ça veut dire que lorsque l'occasion d'éclater se présente devant moi, lorsque quelqu'un vient et m'offense, au lieu que je réagisse de façon spontanée, je devrais être capable d'enclencher un mécanisme dans lequel je me calme, dans lequel je me tais, dans lequel peut-être je fuis la tentation de m'emporter, dans lequel je rationalise la chose en disant « il est plus important d'apporter du soin et de l'aide à cette personne qui est devant moi » que d'extérioriser, d'exprimer ma frustration et d'exploser avec une colère. Donc l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite pas. Et ici on arrive à notre dernier terme pour ce matin, l'amour ne présume pas le mal, ou l'amour ne soupçonne pas le mal, et dans d'autres versions, vous allez avoir une connotation différente qui est l'amour ne trame pas ou l'amour ne planifie pas le mal. Et ici, c'est deux termes qu'on utilise. Bien sûr, le terme présumé, soupçonné, tramé, qui va être le terme logizomai, et le terme kakos pour mal. Et ces deux termes-là sont familiers pour nous avec des termes contemporains. Logizomai, qui veut dire penser, planifier, réfléchir. Un mot de la même famille que logizomai, vous l'aurez tout de suite deviné, c'est le terme logique ou logistique. Donc, quelque chose qui est pensé, quelque chose qui est réfléchi, et pour logistique, quelque chose qui est préparé, quelque chose qui est assemblé. Kakos, peut-être que vous allez vous dire, vous ne connaissez pas, mais je vais vous donner un terme qui va vous allumer quand on parle de cacophonie. Cacophonie, c'est le fait d'avoir un son qui est dissonant, un son qui est désagréable, un son qui n'est pas juste, un son qui est mauvais. Cacophonie, un synonyme en un seul mot du bruit. Quand quelqu'un se met à jouer le violon parce qu'il commence à apprendre le violon, vous savez que le violon est un des instruments les plus pénibles à écouter lorsqu'on n'a pas quelqu'un qui sait jouer devant nous. Les fausses notes sont tellement flagrantes et tellement stridentes et tellement éreintantes, et puis ça nous graffine l'oreille tellement le son d'un violon qui est mal joué est perturbant. Donc on parle de cacophonie pour un violoniste qui commence à jouer. Quand il devient un virtuose, bien sûr c'est un des plus beaux instruments qui soit, mais entre le débutant, le néophyte, et quelqu'un qui sait plus ou moins jouer, il y a quand même une marge d'erreur qui est tout à fait pénible pour le spectateur ou l'auditeur. Donc ici, cacos, c'est ce genre de bruit qui est agaçant et qui est irritant. L'amour qui ne présume pas le mal, on va ici le diviser en deux options ou deux visions particulières. Il y a d'abord effectivement celle qu'on reconnaît régulièrement dans la version Louis II et dans d'autres versions connexes, qui dit « ne présume pas ou ne soupçonne pas le mal ». Donc, c'est quelqu'un qui ne se considère pas constamment comme une victime de son prochain. Malheureusement, il y a des gens qui vivent, et on les entend parler comme ça, et on les voit vivre d'une manière où on se dit, ils se sentent tout le temps être coupables sous la menace de quelqu'un, être attaqués par celui-ci ou par cela. Dès qu'ils ouvrent la bouche, on se rend compte qu'ils vivent en tant que victimes des méfaits de l'ensemble de la population, pratiquement, ou de l'ensemble de l'humanité. Et ce faisant, parfois ils ont raison, parce que parfois, effectivement, il y a des gens qui leur en veulent, mais à faire cet amalgame que tout le monde est contre nous, on tombe dans le péché de présumer, de soupçonner du mal. Régulièrement, lorsque je rencontre quelqu'un et que la personne vient me dire des griefs par rapport à un frère avec ou à une sœur ou par rapport à certaines personnes, je lui demande, est-ce que tu te bases sur des faits réels ou tu te bases sur un sentiment personnel? Parce que si on se base sur un sentiment personnel pour étayer une espèce de théorie sur le fait que des personnes sont contre nous, ce faisant, on est en train de pécher, parce qu'on est en train de présumer le mal chez quelqu'un. Lorsque tu regardes un frère ou une sœur, puis tu dis « cette personne-là ne m'aime pas », est-ce que tu as un fait précis où cette personne-là est contre moi? As-tu des faits clairs, précis, tangibles pour étayer ton raisonnement, ou tu y es simplement sur un espèce de sentiment? Si c'est sur un espèce de sentiment, malheureusement, mon frère, ma sœur, t'es en train de pécher. Et voilà ce que j'explique régulièrement aux gens en leur disant, faut que tu fasses attention, parce que ce faisant, tu te mets toi-même à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, quelqu'un qui ne présume pas du mal, c'est quelqu'un qui ne se considère pas constamment la victime des méfaits, des intentions mauvaises de quelqu'un, d'un prochain ou des prochains. Mais quelqu'un qui ne soupçonne pas le mal, c'est aussi quelqu'un qui pardonne facilement, quelqu'un qui ne garde pas rancœur envers les offenses ou en raison des offenses subies. Et là, c'est un autre dilemme que nous avons dans la vie chrétienne. Nous sommes appelés à pardonner. Nous sommes appelés à pardonner. Le pardon n'est pas négociable. Le pardon, en fait, je le fais même pas pour libérer la personne qui m'a offensé. Le pardon, je l'accorde pour être moi-même libre devant Dieu, pour être en règle devant Dieu. Si quelqu'un t'offense, si quelqu'un te fait mal, cette personne-là se place se place sous le jugement de Dieu parce qu'elle pêche. Mais en contrepartie, si toi tu refuses d'accorder le pardon, en contrepartie, toi, tu te places aussi sous le jugement de Dieu, parce que nous sommes tous appelés à pardonner. C'est pas négociable. Nous sommes tous appelés à pardonner. La deuxième vision, c'est tu ne trames pas, ou l'amour ne trame pas le mal. Et ici, c'est la personne qui prévoit, qui planifie, qui organise une vengeance contre son prochain. Non seulement on vient de parler de celui qui n'arrive pas ou qui a des difficultés à pardonner, mais de surcroît à cela, il y en a qui poussent l'audace encore plus loin, et c'est comment je vais faire pour me venger? Je vais lui apprendre une bonne leçon. La prochaine fois qu'il me fait ceci, moi je vais lui faire cela et il va avoir mal. Tramer le mal, planifier le mal, est aussi une des façons dont le terme logizomai va avoir ou va avoir comme connotation. Donc l'amour qui ne présume pas le mal et l'amour qui ne trame pas le mal est un amour qui ne va pas penser à comment je pourrais éventuellement me venger, ne va pas mettre une stratégie en fonction pour pouvoir se venger suite à un méfait dont on pourrait avoir été la victime. C'est une personne qui ne réfléchit pas à comment faire mal à l'autre. Il y a des personnes comme ça qui sont qui ont un cœur débonnaire, qui ont un cœur doux, qui ont un cœur noble, qui fait que on les attaque puis elles restent comme ça pantoises et elles n'ont pas ce réflexe de vengeance. Mais d'autres, dès qu'on les attaque, ils sont déjà dans le mécanisme de voir comment pouvoir tirer parti de la chose et pouvoir infliger à l'offenseur sa propre médecine. Il y en a certains même qui prévoient tout cela en avance en se disant « Si éventuellement un jour peut-être quelqu'un me faisait cela, ben alors voici comment moi je réagirais. » L'amour ne trame pas le mal. Quand tu fais cela, quand tu présumes du mal, ou quand tu anticipes comment tu pourrais faire mal à quelqu'un, tu enfreins les règles de Dieu par rapport à l'amour et par rapport aux préceptes de la charité et de l'amour chrétien. Alors, l'amour ne fait rien de mal, rien d'inconvenant, rien de honteux, rien de manipulateur dans la manifestation de l'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt, elle place le prochain avant soi. L'amour ne s'irrite pas, donc l'amour est capable de se contrôler. L'amour ne pique pas des crises de colère. L'amour n'explose pas lorsqu'elle est confrontée à un méfait. Et l'amour ne présume pas du mal et l'amour ne trame pas le mal. Donc l'amour ne soupçonne pas chacune des personnes qui passent. J'appelle ça souvent le syndrome du KGB. Il y a des gens qui sont sous la méfiance constante d'un peu tout ce qui passe. Puis là, on te dit, ouais, mais je fais attention parce que il y a telle personne, puis il y a telle personne, puis dans l'église, puis dans la société, puis dans mon voisinage, il y a des gens qui vivent constamment sous la méfiance. Ça, c'est présumé du mal. Et l'amour n'est pas aussi celui qui trame le mal, donc qui planifie une vengeance ou qui planifie comment tirer sur quelqu'un ou qui ne planifie pas comment faire mal à autrui. Alors, c'était cela que nous avions pour ce matin. Demain, on continue avec le verset 6 et on poursuit notre étude. On vous rappelle, ce soir, c'est l'étude biblique avec le pasteur Sergio. Il a débuté la thématique la semaine dernière de comment servir en période de défi. Donc, je pense que c'est tout à fait attitré par rapport à ce que nous vivons. C'est 19h sur nos canaux habituels avec le pasteur Sergio. Donc, 19h, bien sûr, heure de Montréal pour tous ceux qui sont à l'étranger. Alors, permettez-moi de prier et après ça, on va voir si je peux saluer quelques personnes avant de vous laisser pour la matinée. Alors, Seigneur, merci pour ce rappel à l'ordre. Merci, Seigneur, de nous remémorer, Seigneur, ce qu'est l'amour et comment cet amour doit se manifester. Et aussi, Seigneur, comment l'amour ou les caractéristiques que l'amour ne devrait pas avoir. L'amour ne fait rien de malhonnête, effectivement. L'amour ne cherche pas son intérêt personnel, mais plutôt celui de l'autre. L'amour arrive à rester tempéré, à nous garder humbles et à nous garder doux et nous évite ces crises de colère auxquelles on cède trop régulièrement. Et enfin, Seigneur, l'amour ne présume pas du mal, nous permet de vivre en paix avec tous et non pas dans la méfiance perpétuelle des uns et des autres. Et de surcroît, cela, l'amour ne peut pas, ne doit pas, ne devrait pas planifier la vengeance, la rétribution, puisque toi-même tu nous dis que à toi appartiennent la vengeance et la rétribution. Et lorsque nous faisons nous-mêmes des plans de vengeance, nous te volons, Seigneur, tes responsabilités. Nous te volons, Seigneur, ce qui t'appartient. Alors, Seigneur, permets-nous d'être des hommes de paix, des hommes qui sont en paix, des hommes qui publient la paix et des hommes qui répandent la paix autour d'eux. Bénis ma sœur, bénis mon frère ce matin. Instruis-nous encore, arrose cette parole par ton esprit et permets-nous, Seigneur, de voir cette parole qui grandit dans nos pensées, qui met de la lumière sur certaines sphères de notre existence dans lesquelles, Seigneur, tu veux encore œuvrer. Et permets-nous, Seigneur, d'être de bons représentants de ton royaume tout au long de cette journée. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, voyons voir qui s'est joint à nous ce matin. Encore une fois, probablement que je n'arriverai pas à saluer tous, mais je vais voir qui je peux voir. Je vois qu'il y a Ramon qui s'est joint. Alex, bonjour. Yvelin, bonjour. Daniel Long, bonjour. Qui je peux voir d'autre? J'essaie de... Diane, je pense que je t'ai salué, je suis pas sûr, mais je te salue encore. Sinon, je crois que c'est à peu près tout ce que j'arrive à voir. Je crois qu'il y a Eric qui s'est joint aussi à nous. Oui, Eric, Myriam, le bonjour à Donald de ma part, que Dieu vous bénisse tous deux. Donc, c'est tout ce que j'arrive à voir ce matin, mais je vous souhaite donc une très très belle journée, allez dans la paix du Seigneur et allez surtout dans l'amour du Seigneur, et on se retrouve ce soir avec le pasteur Sergio, 19h, et on se retrouve aussi demain matin pour notre avant-dernière bénédiction matinale de la semaine. Alors, bonne journée à tous, et puis à très bientôt.